Renaud Dourges en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le plaisir d'être par téléphone en compagnie de Gilbert Thil pour un ouvrage paru aux éditions de Mareuil, Femmes criminelles. Gilbert Thil, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes connu parce qu'on vous avait eu à une époque assez souvent à la télévision dans votre activité de juge d'instruction. Vous avez été entre autres juge dans des affaires de terrorisme, mais également dans des affaires de droit commun dont nous aurons peut-être à parler tout à l'heure puisque nous parlons de femmes criminelles. On parle souvent de féminicide, mais il y a aussi des hominicides, c'est-à-dire des dames qui tuent des messieurs.
Et oui, ça arrive, même si ça doit déplaire à certaines qui essayent, à travers justement cette définition du féminicide, d'accréditer peu ou prou l'idée que les hommes sont d'éternels prédateurs, qui savent faire en la matière malheureusement, et que les femmes sont des éternelles victimes. Et comme le disait le docteur Zaguri, qui est un psychiatre qui a multiplié les expertises psychiatriques en matière criminelle, et notamment celle des tueurs ou des tueuses en série, eh bien, cette définition même du féminicide, qui a été écartée d'ailleurs en tant qu'incrimination, ça devait être en 2020, par la chancellerie, eh bien, elle écrase en quelque sorte cette définition-là, elle écrase tous les autres motifs du passage à l'acte. Parce qu'un féminicide, ce serait un homme qui tue une femme parce que c'est une femme. Or, le passage à l'acte est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les gens qui tuent par cupidité, il y a les gens qui tuent par jalousie, il y a les gens qui tuent par exaspération. Et bien évidemment, le dire n'est pas d'une manière ou d'une autre excusé si peu que ce soit l'acte criminel. Mais le féminicide en soi, c'est un slogan revendicatif des organisations féministes radicales.
Alors vous soulignez d'ailleurs dans votre ouvrage que la violence des femmes, longtemps ignorée, elle demeure encore un sujet tabou.
Oui, elle demeure un sujet tabou parce que ça doit déranger un certain nombre de doctrines qu'on tente de mettre en place. Il y a eu une étude qui a été faite, je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais il y a eu une étude qui a été faite sur les années cumulées 2013 et 2014, à moins que ce soit 2012-2013, ma mémoire est peut-être un peu défaillante. Mais sur ces deux années cumulées, on a recensé 398 000 femmes qui étaient identifiées comme étant victimes de violences intraconjugales, la plupart du temps de la part de leur mari ou de leur compagnon, etc. Bon, eh bien, on sait aussi qu'il n'y a que 10% des femmes victimes de ce type de violences qui se manifestent, c'est-à-dire que en gros, on n'est pas loin des 4 millions sur ces deux années, ce qui est un chiffre considérable. Mais sur la même période, on a eu 149 000 hommes qui ont été victimes de violences de la part de leurs femmes à l'intérieur de leur couple. Et là, on sait aussi que le chiffre, ce n'est pas 10% des hommes qui se manifestent, mais seulement 3%, parce que c'est encore plus difficile pour d'aller se manifester. Oui, c'est presque honteux. Et puis, on a longtemps parlé de ce que les services de police ou de gendarmerie n'étaient pas formés à l'audition des femmes victimes de violences physiques ou sexuelles. Eh ben, vous imaginez bien que dans le domaine des violences exercées par des femmes sur des hommes à l'intérieur d'un couple, ça devait plutôt provoquer l'hilarité plutôt que la compassion à l'intérieur des institutions répressives.
Bien sûr. Alors ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais en matière d'inceste, il y a également des femmes incesteuses, il faut souligner tout de même.
Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est un peu ridicule d'essayer de catégoriser, comme le font certaines organisations, les bons et les méchants. Donc les méchants, on l'a compris, ce sont les hommes, mais je le redis, et là, s'ils ont largement démontré leur capacité de nuisance en termes de violence physique ou sexuelle sur leur conjointe, mais ça existe également de l'autre côté, et sauf à considérer que l'ouvrage que j'ai écrit, qui ne révèle rien de bien spectaculaire d'ailleurs, est une pure fiction. Eh bien non, des femmes, des empoisonneuses au sens propre, qui est guillemets autour de propre du terme, eh ben on en a connu en voiture, voilà. Surtout que ça donne un chiffre noir sur la criminalité féminine, puisque au 19e siècle et encore au début du 20e siècle, eh bien, l'empoisonnement par arsenic, c'est-à-dire à l'aide de moroa, les symptômes présentés par les victimes de ces empoisonnements-là étaient tout à fait identiques aux symptômes des malades du choléra. Or, le choléra, au 19e siècle et au début du 20e encore, sévissait assez vigoureusement en France et en Europe occidentale.
Alors, donc, vous parlez du poison, et le poison, c'est une arme essentiellement féminine.
Ben, il ne nécessite pas de force physique, il ne, n'entraîne pas, sauf pour celles qui décident d'assister à l'agonie finale de leur chérie, il y a pas de sang, il n'y a pas besoin de force physique, et puis voilà, donc c'était une arme qui a été assez, la plupart du temps, largement utilisée par les femmes, faute d'autres moyens, et puis on voit très bien que à cet arsenic-là se sont substitués un certain nombre de produits médicamenteux tels que la digitaline, donc la tonique cardiaque, qui permet de faire disparaître également des sujets un peu affaiblis, notamment ceux qui sont un peu affaiblis par l'âge.
On appelait le poison la poudre de succession.
Oui, ça date de l'affaire des splendeurs versaillaises, qui était déjà qui était déjà un des signes des prémices de la décomposition de l'ancien régime, où il y avait toutes ces espèces de trafiquantes diverses qui sévissaient dans les rues de Versailles et également dans les rues de la capitale. Alors la marquise de Brinvilliers, la voisine, etc. Bon, on a eu cette affaire de crimes en série, on les appelait pas comme ça encore à l'époque, qui ont fini par défrayer la chronique et même déstabiliser complètement le régime de Louis XIV. Et puis on s'aperçoit aussi que la tentation de créer des juridictions spéciales dès le moment où on est un peu gêné aux entournures au niveau du pouvoir, eh ben, elle ne date pas d'hier, puisqu'avec la chambre ardente, c'est ce qu'avait fait Louis XIV, il avait créé une juridiction spéciale et il a fini par détruire le dossier. Heureusement que les archives du lieutenant général de police, l'ancêtre du préfet de police de Paris de l'époque, ont permis de reconstituer en gros les tenants et les aboutissants de cette affaire.
Alors, il n'y a pas que dans la noblesse qu'il y a eu des empoisonneuses.
Et alors, vous citez... n'ai nullement prétendu
non, non.
ça. Pardon.
Parce que vous citez quelqu'un à qui une bande dessinée a été consacrée il y a 2 ou 3 ans, c'était chez Futuropolis. Il s'agit d'Hélène Jégado, qui est peu connue du grand public.
Oui, elle est peu connue du grand public. D'abord parce que son procès qui est intervenu en 1700, je dis pas de bêtises, en 1852, ben, cette affaire-là s'est déclenchée. Le procès a eu lieu quelques années après le coup d'État de Napoléon III. Donc, dans la presse écrite, qui était là.
Le seul moyen de communication.
Il y avait une très forte diffusion à l'époque. Eh ben, l'actualité a fait que l'actualité étant un peu, et la presse étant un peu monomaniaque en la matière, on a parlé surtout du coup d'État de Badinguet. Par contre, Hélène Jégado, effectivement, était une femme qui avait des talents de cuisinière et de pâtissière incontestables. Elle avait donc pas de mal en ce milieu du 19e siècle, à trouver des emplois dans les presbytères, chez les curés en Bretagne, ou dans des maisons de maîtres, ou encore ailleurs, chez des particuliers. Simplement, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle ajoutait toujours un zeste d'arsenic à ses préparations. Donc, elle a tué, d'après les historiens, entre 60 et 80 personnes.
Oui, c'est quand même pas mal.
La justice de l'époque était moins exigeante que celle d'aujourd'hui, de la même façon que Joseph Vacher, le routard du crime, qui a servi de base
au juge et l'assassin.
Au juge et l'assassin, oui, à Bertrand Tavernier, eh bien, où il a été jugé et exécuté pour un seul crime, alors qu'on savait bien qu'il en avait perpétré un certain nombre d'autres. Eh bien, Hélène Gilgado, ça a été un peu la même chose. En cette fin du 19e siècle, elle a été poursuivie devant la cour d'appel de Rennes, qui l'a condamnée à mort. Elle a été poursuivie pour 5 empoisonnements, 5 tentatives et une dizaine de vols, parce qu'elle s'emparait assez souvent des biens de ses victimes. Alors qu'il y en avait, je vous l'ai dit, entre 60 et 80. Mais la prescription, c'était 10 ans en matière criminelle. Il n'y avait pas assez jurisprudence glissante en matière de prescription, comme on le fait maintenant, en raccrochant une affaire à l'autre et en disant que celle qui vient d'être raccrochée a vu sa prescription interrompue par des actes faits dans la seconde, etc., etc. Donc, elle a été jugée pour les dernières affaires qu'elle avait perpétrées. Tout le reste a été jugé prescrit.
Alors,
donc,
Oui, il y a une empoisonneuse qui n'a tué qu'une seule personne, mais on en a beaucoup, beaucoup parlé, c'est Violette Nozière.
Oui, elle a tué... Enfin, elle avait déjà essayé d'empoisonner ses deux parents deux mois auparavant. Et puis, il y en a une que vous ne me citez pas, mais elle n'est pas dans mon bouquin, c'est Marie Bédard.
Bien sûr.
Elle avait
été acquittée.
Elle a été acquittée après 12 ans de procédure. Elle a été acquittée devant la cour d'assises de la Gironde, c'était au tout début des années 60, après des procès qui sont un peu révélateurs des maux de la justice, puisque souvent, encore maintenant, on l'a vu à travers l'affaire Grégory, il y a des querelles d'experts entre des hommes de l'art qui ont des points de vue tout à fait contradictoires, et quand ne viennent pas s'y mêler des querelles d'égo de la part des 10 hommes de l'art, on peut encore s'estimer heureux. À l'époque, c'était dans le domaine de la toxicologie médico-légale que les experts n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'il y a de l'arsenic de manière endogène dans le corps humain, ou alors est-ce que ce sont des apports extérieurs? Et si ce sont des apports extérieurs, est-ce que ça vient des eaux de ruissellement du cimetière? Enfin bref, il y a de quoi en parler. En long, en large et en travers. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, maintenant, il y a des produits médicamenteux, mais ce qui a grandement progressé par rapport au 19e siècle, au 20e, c'est la toxicologie médico-légale. Yes. Puisque la première expertise de toxicologie médico-légale, elle date de 1840, c'est l'affaire de Marie Lafarge qui a été accusée d'avoir empoisonné son mari avec de l'arsenic.
Alors nous allons laisser passer un message et je vous reprends immédiatement après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Gilbert Thiel pour Femmes criminelles, paru aux éditions de Mareuil. Un ouvrage qui fait 420 pages, 22 euros, je le dis immédiatement, pour ceux qui voudraient le commander rapidement chez leur libraire habituel. Il y a des tueuses dont on peut dire qu'il y avait quand même un côté psychiatrique dans leur œuvre, si on peut appeler ça une œuvre. Je pense entre autres à l'ogresse de la Goutte d'Or et aux sœurs Papin.
Oui, Jeanne Weber, c'était peut-être plus classiquement, hélas, une tueuse d'enfants. On tournée là en plein cela, hein, dans le quartier de la Goutte d'Or de Paris, et elle va finir par tuer plus d'une demi-douzaine de ses neveux et nièces qui étaient confiés à sa garde. Et là, on touche du doigt les insuffisances de la médecine légale de ce début de 19e siècle. Et puis, une nouvelle fois, puisqu'elle sera acquittée une première fois, elle bénéficiera d'un non-lieu. Et après, elle sera internée. Enfin, elle a eu un parcours très, très spectaculaire qui a mis en lumière toutes les insuffisances de la justice de l'époque. Et le mieux encore, après avoir été acquittée, et avoir bénéficié pour une nouvelle affaire d'un non-lieu, eh bien, c'est un magistrat de l'époque qui a considéré que la pauvre avait été victime de l'institution judiciaire et qui lui avait trouvé un emploi sous un nom d'emprunt dans un établissement hospitalier pour les petits variolites. Et elle a été surprise 15 jours après en train d'essayer d'en étrangler un, puisqu'elle procédait par strangulation. Donc là, si elle est passée à travers les gouttes, c'était essentiellement du fait d'une nouvelle fois de l'insuffisance de la médecine légale et déjà des querelles d'experts. Pour les sœurs Papin, celles qui ont énucléé à main nue la mère et la fille de la maison, les patrons, on n'a jamais su trop pourquoi. Et je crois que ce qu'on peut dire à peu près à coup sûr, c'est que ces femmes-là, en tout cas l'aînée, celle qui est morte après quelques années en prison de chaque Cachexi Bézanique, c'est-à-dire en d'autres termes qui s'est laissé mourir de faim, je crois que cette femme-là ne serait plus jugée parce que les progrès de la psychiatrie médico-légale auraient permis de démontrer, s'ils avaient été présents au rendez-vous, que cette femme n'était pas en possession, loin s'en faut, de toutes ses facultés. Mais on voit très bien que par-delà les difficultés techniques de résolution des affaires, eh bien, les gens qui sont les témoins de ces affaires révélatrices de leur époque, en quelque sorte, eh bien, se font déjà une idée a priori, puisque à l'époque des sœurs Papin, on est en 1933, on s'aperçoit très bien comment l'affaire est récupérée par la gauche d'une manière générale, où on va soutenir que c'est la lutte des classes qui explique que ces deux jeunes femmes sont pris avec une violence absolument inouïe à leur maîtresse de maison et à la fille de cette dernière, alors que tout ça c'était des fables. On n'a jamais su véritablement pourquoi ces femmes qui n'étaient pas maltraitées en plus de ça par leur patronne au sein du foyer s'en sont prises avec une telle énergie criminelle à ces deux femmes.
Alors, vous avez dû voir défiler un certain nombre de femmes criminelles dans votre cabinet de juge d'instruction. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont plus marqué que d'autres ?
Oui, ben, bien évidemment, Simone Weber.
Mais ce n'est pas la même Weber que celle dont on parlait tout à l'heure.
Non. Vous voulez me dire que c'est un nom qui porte malheur ?
Oui, elle s'était massacrée à la tronçonneuse.
Oui, tout à fait. De la disqueuse à béton, c'est une affaire dont l'instruction a duré près de 5 ans. Là aussi, on peut se dire que c'était très très long, déjà pour les critères de l'époque. Maintenant, si Mme Weber avait eu au milieu de l'année 85 un téléphone portable et un appareil de géolocalisation dans sa voiture, et si on avait eu à notre disposition les expertises génétiques moléculaires et recherches d'ADN, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais j'ai vu effectivement un certain nombre de femmes, jeunes ou pas jeunes, qui ont défilé dans mon cabinet. Et parmi elles, une affaire qui m'a beaucoup frappé, c'était celle de Laurence Bailly, qui était une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui a mis le feu en répandant de l'essence à la chambre de ses deux enfants. L'un était âgé de 23 ans et sa sœur était âgée de 18 mois, qui sont morts asphyxiés, heureusement, avant d'avoir été brûlés dans l'incendie qui avait été mis à cette chambre. Et on n'a jamais su pourquoi. Elle n'a jamais été capable de fournir une quelconque explication crédible, parce que bien sûr, elle avait quelques difficultés financières avec son époux qui travaillait aux Salines près de Dombasle-sur-Meurthe, mais bon, c'était pas ce qui pouvait justifier cette véritable mise à mort. Donc, on est confronté dans ce métier-là à des fois l'indicible sans pouvoir l'expliquer, même si on arrive à démontrer que l'auteur des faits, c'est un tel ou une telle.
Bien sûr. Et vous avez été juge antiterroriste. Il y a eu également, là, on arrive au terme de cette émission, mais il y a eu également des femmes terroristes, bien évidemment.
Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est une des inquiétudes qu'on peut avoir maintenant, c'est de voir la montée en puissance des femmes. On dit, ce ne sont que des estimations, donc elles sont à prendre avec précaution, que la part des femmes dans la délinquance et dans la criminalité de droit commun est entre 3,5 et 5% de l'ensemble des faits délictuels et criminels. Par contre, dans le domaine du terrorisme, on est largement à plus de 10% maintenant, et ça continue d'augmenter, surtout depuis que Daesh, depuis que l'État islamique a fait de ces femmes des moudjahidines, le féminin du terme moudjahidine, à part entière. Elles sont non seulement chargées du repos du guerrier, c'est relativement traditionnel, elles sont également chargées de la reproduction du clan, hein, au sens large du terme, un peu à la manière des Lebensborn nazis, de l'Allemagne nazie, et puis elles sont surtout chargées outre leurs activités informatiques pour faire les recrutements, elles sont surtout chargées de l'éducation des lionceaux du califat, c'est le terme, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on arrive à faire un peu à la manière des enfants soldats des années 70, eh bien, des gamins de 5 ans, on les fait assister, s'ils ont été sages, bien sûr, à des lapidations de femmes présumées adultères et à des décapitation d'individus, et si les enfants ont été très sages, ben ils peuvent même jouer
faire eux-mêmes
avec la tête du décapité. Voilà.
Bien, Gilbert Thiel, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Femmes criminelles », c'est paru aux éditions de Mareuil, un ouvrage de 22 euros chez votre libraire habituel. Nous allons terminer par une chanson de Brassens. Alors, vous m'aviez confié il y a 2 jours au téléphone que vous aimiez particulièrement Brassens. Ça tombe très, très bien. C'est l'assassinat. Je vous remercie encore.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Quand sa menotte, elle a tendu, triste, il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Qu'il était pauvre comme Job, elle a remis sa robe. Elle alla quérir son coquin qui avait la patte du gain. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Et pendant qu'il le lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, la langue elle lui montra. On dit que quand il expira, la langue elle lui montra. Mirent tous en dessus dessous, trouvèrent pas un sou, mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissier, mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissier. Alors prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort, et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvé. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. Et le matin qu'on la pendit, elle fut en paradis. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats.